Bien, les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Les colonies de vacances.
Suite du débat, la parole est à monsieur François Fortassin pour le groupe RDSE.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le temps des jolies colonies de vacances, cher à Pierre Perret, et qui ont illuminé notre jeunesse, semble hélas terminé.
Et oui, les nuitées passées par les enfants en colonie ont diminué de moitié entre 1995 et cette année 2014, où au Sénat, le sénateur Fortassin des Hautes-Pyrénées, on l'a reconnu son accent, se laissait saisir par la nostalgie qu'il est loin le temps des jolies colonies. Le sénateur Fortassin, c'est un laïc radical de gauche, mais un élu catholique militant aurait pu parler de la même façon. En France, protestant, catholique, socialiste, communiste, juif et même, un moment d'avant-guerre, le mouvement d'extrême droite des Croix de Feu, ont tous attendu des colonies qu'ils fondaient, à qui mieux, une éducation récréative et combative, une éducation de témoignage. Dans les années 1960-1980, temps de l'apogée auquel participèrent grandement les comités d'entreprise, l'accent était déjà mis sur un autre objectif, la socialisation. On se félicitait que la colonie apprenne aux enfants l'autonomie en les plaçant dans un espace collectif, loin des parents. Et maintenant, les attentes ont encore changé. La simplicité, voire la frugalité des colonies de naguère n'est plus de mise. Surtout, le souci de la sécurité et de la protection a beaucoup grandi. Et aussi la volonté de comparer. Avant de faire leur choix, les parents aiment mesurer l'offre en prestations diverses qu'offrent les colonies. D'où la multiplication des séjours courts et thématiques. Le coût des prestations en est évidemment augmenté. Et on en vient à ce paradoxe. Les enfants des classes populaires, qui étaient les premiers bénéficiaires des colonies, s'en retrouvent peut-être aujourd'hui les premiers exclus.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Laura Downs, bonjour.
Bonjour.
Qui est directeur d'études à l'École des hautes études. Mais si je donne votre titre, c'est que vous l'avez doublé d'un autre, ô combien prestigieux. Après avoir écrit un livre sur les colonies de vacances, qui a été publié chez Perrin dans son édition française, vous enseignez à l'Institut universitaire européen de Florence. Alors cet Institut universitaire européen, ça comprend même des Britanniques, voire des Turcs.
Oui, oui. Les Britanniques. En fait, tous les pays y participent individuellement. C'est une institution qui prédate l'Union européenne, en quelque sorte.
Et qui l'élargit au-delà des 28.
Hein. Oui. Oui, c'est au-delà, bien au-delà.
Les colonies de vacances, c'est une affaire très française, en revanche.
Oui, oui. C'est-à-dire que l'origine, que je raconte un peu dans mon livre, c'est une œuvre protestante et suisse. Et un pasteur, le pasteur Bion, prend 68 enfants de la ville de Zurich et il les colonise chez les paysans dans la montagne autour de Zurich pendant 3 semaines.
Ça, c'est dans les années 1870-1880.
C'est ça.
Et après, ça vient en France.
Et ça vient immédiatement en France et c'est traduit par des protestants qui sont allés à Zurich pour voir comment ça se passe, l'œuvre de pasteur Bion. Et donc, les pionniers sont les protestantes. Madame Élise Pressensé, qui a organisé l'œuvre de la Chaussée de Maine, et puis le pasteur Loriot.
Et le mot d'ordre, c'est le plein air.
Oui.
De toutes les tâches importantes et délicates qui me sont dévolues comme ministre de la Santé publique et de l'Éducation physique, il n'en est aucune qui ne tienne plus à cœur que la protection de l'enfance par la vie au grand air. Les colonies de vacances ne sont pas un luxe social. Elles sont une véritable nécessité. C'est déjà trop de laisser les enfants livrés à la misère des taudis et de la rue pendant toute l'année. Il faut au moins les arracher pendant les vacances au milieu malsain pour leur donner le soleil et l'air pur auquel ils ont droit. Pour nombre d'enfants, un séjour de quelques semaines à la campagne, à la montagne ou à la mer représente une nécessité vitale. Pensez à ceux qui n'ont pas leur ration annuelle d'air et de soleil. Achetez le carnet national des colonies de vacances. Aidez le comité national, dont la sainte devise est le plus beau des programmes. Vous qui partez, songez à ce qui reste.
Ils vont arriver, les gentilles de vacances. On pourra librer, guère se donner du bon temps. Ça ira, l'ira, l'idéra, la rira de l'ombre.
Plein air, grand air, faire des visages pâles, des bonnes mines.
Oui.
Et alors donc, on faisait très attention au lieu. Il fallait, quand on allait chez les paysans, parce que ça commence par du placement dans les familles, qu'il y ait des vaches.
Et minimum de 3 vaches.
Ah.
C'était comme ça qu'on mesurait la capacité de la famille à accueillir 1 ou 2 enfants qui avaient besoin de lait, de sommeil, et de la bonne nourriture et du bon air pour les protéger, notamment contre la tuberculose, mais aussi contre le rachitisme et toutes les maladies de la pauvreté.
Le méphitisme des villes frappait les enfants. Et ça concernait déjà un peu tous les secteurs de la société civile. Vous avez beaucoup parlé des protestants. Au long de cette émission, on retrouvera souvent la ville d'Ivry, mais les premières initiatives à Ivry, dès 1919, c'est du placement familial.
Oui, oui.
Les petits Ivriens à la campagne.
Oui, exact.
Mais on les choisissait comment, les familles ?
Pour Ivry, ils l'ont choisi un peu comme ça. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, c'était pas une œuvre très bien rodée. Et donc, du coup, la municipalité communiste a remplacé le système de placement familial quelques années après.
Par les colonies. On va y venir. Parce que les paysans, il faut quand même se méfier d'un certain nombre de leurs habitudes. Les maisons favorisent la promiscuité.
Oui, et il y a aussi les paysans qui sont des bouilleurs de cru, qui boivent.
Oui, d'ailleurs, souvent il était recommandé d'éviter la Normandie et la Bretagne. J'imagine que c'était à cause de la forte présence des bouilleurs de cru.
Exact.
C'est ça la campagne.
Qu'est-ce que tu croyais ?
Ben mon vieux, faire 300 km pour voir ça. Beurre ! C'est comme les gens d'ici, où qu'ils habitent.
Comment ça ?
Ben oui, quoi. Il n'y a même pas de maison.
Il n'y a pas de maison. Il y a des fleurs.
Bouf. Vous allez me suivre longtemps comme ça. Je peux pas me sauver, il n'y a pas de chemin.
Bon, je te fais confiance. Mais t'éloigne pas, hein.
Je m'éloigne pas, je m'isole. Je veux repartir. Et puis je suis gourde. En ville, ça va. Mais ici, je suis complètement paumée. J'y connais rien à leur fichue campagne. Avec leur chemin qui vont nulle part.
C'est une curiosité qu'on vous offre là, Laura Downs. C'est le premier rôle sans doute d'Isabelle Adjani. 15 ans.
Ah,
à 15 ans.
À 15 ans.
Ouais.
Wow.
Et alors ça se passait comment justement les relations avec les familles ?
Ça dépendait aussi du contrôle exercé par la municipalité. Les municipalités qui passaient par l'assistance publique, ça marchait mieux quand même. Mais souvent, les enfants étaient obligés de faire des courses, mais aussi aller garder des vaches, parfois travailler dans les champs. Et en fait, il y avait pas mal d'enfants qui envoyaient des lettres de plainte à leurs parents. Et puis, il y avait parfois aussi des accusations d'abus sexuels, d'attouchements et même un cas de viol.
Vous parlez des municipalités, mais ce que vous décrivez, c'est un mouvement qui s'ouvre d'un peu partout, de tous les secteurs de la société civile. Vous citez les protestants, il faudrait citer les catholiques. C'est ça qui vous a étonné d'ailleurs. C'est la société civile, comme on dit aujourd'hui, qui fait naître les colonies de vacances. Pas seulement les municipalités. Et quand c'est les municipalités, c'est encore la France d'en bas qui s'exprime.
Oui, tout à fait. Cette institution ressurge vraiment de la société civile, des paroisses, des associations, des associations religieuses, des associations juives, des associations d'instituteurs laïcs de l'Auvergne qui voulaient envoyer leurs enfants dans des fermes dans le Cantal pour qu'ils perdent pas de lien avec le département d'origine de leurs parents.
Alors commençons, après les protestants que vous avez évoqués, par les catholiques des années 1890. Bon, cette chanson qui correspond au lever dans une colonie catholique est un peu plus tardive, évidemment.
Nous voulons Dieu.
Dans une colonie catholique, nous avons l'image de la Vierge qui est chantée ici. Nous avons aussi le crucifix, et dès le petit matin, à toutes les heures du jour et jusqu'à la veillée, qui doit obéir à une courbe. Mmh. Il faut calmer les enfants avant qu'ils n'aillent se coucher. Il y a le rendez-vous avec l'école de la foi. C'est oui. Une éducation de témoignage.
Absolument, absolument. Parce que dans une France, fin du 19e siècle, où les guerres de religion battaient leur plein, il fallait mettre en place une structure de colonie catholique pour que les familles catholiques pouvaient garder leurs enfants dans la foi.
Mais le souci, c'est de construire un équilibre moral qu'on indique aux enfants. Simplicité, effort, frugalité.
Oui, tout ça, plus l'idée de l'équipe. Parce que une chose qui est très intéressante chez les catholiques, c'est que ce sont eux qui ont introduit dans la structure pédagogique des colonies de vacances, l'idée des activités, une éducation active qui passait par le jeu. Et donc le jeu était censé éveiller quelque chose à l'intérieur de l'enfant, mais aussi éveiller un esprit d'équipe et d'accepter l'hiérarchie entre le chef et le groupe et de suivre des ordres et comme ça de pouvoir jouer et gagner.
Alors l'équipe obéit à une hiérarchie, il y a un coach comme on dirait aujourd'hui avec oui. qui on peut parler en confiance, mais c'est vrai que l'éducation de la démocratie, de la parole démocratique n'est pas au centre des colonies catholiques. Ça va être le cas en revanche des colonies socialistes ? Parce que le parti SFIO a aussi ses colonies, mmh. auxquelles s'agrègent d'ailleurs celles des bundistes, des mmh. juifs nombreuses. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un mouvement qui s'appelle les Faucons Rouges.
Oui.
Et là, on met en avant l'idée que chaque camp, chaque colonie, ça pourrait être comme une république où on ferait l'apprentissage oui. de la vie de discussion et de la vie parlementaire.
Absolument. La république enfantine, c'est une technique socialiste inventée par les Faucons Rouges, qui était un mouvement international d'ailleurs. Et l'idée étant que l'enfant gère ses propres vacances en communauté. À travers la discussion démocratique, à travers les équipes de travail pour maintenir la propreté, l'hygiène et la discipline aussi, mais aussi choisir les jeux, choisir les promenades, les escapades.
Mais on fait appel à l'imaginaire des enfants, comme dans le scoutisme, qui est un peu le modèle.
Exact, exact. Il faut faire appel à l'imaginaire de l'enfant, ce qui calait parfaitement avec l'idée catholique qu'il faut... Il faut chercher à l'intérieur de l'enfant, chercher dans son fort intérieur ce qui est de mieux en lui. Et pour les communistes qui ont une idée plutôt de la construction sociale de l'enfant à partir de l'extérieur, des conditions sociales, c'est un peu paradoxal d'utiliser cette stratégie de jeu, mais le paradoxe me semble avoir passé inaperçu à l'époque.
Alors parlons des communistes, vous avez beaucoup étudié les dossiers d'Ivry, Ivry-sur-Seine, mmh. Ivry-la-Rouge, qui depuis 1925 est une municipalité communiste, marquée par la présence très forte de Georges Marane. C'est en 1928 qu'est acheté pour le compte de la mairie, en Charente-Maritime, le domaine des maths.
L'enfance, notre plus doux espoir, a dit Maurice Thorez. Une grande réalisation de la municipalité, les colonies de vacances. En Charente-Maritime, à quelques centaines de mètres de la mer, se trouve la magnifique colonie des Mattes, propriété de l'œuvre Les Vacances Populaires, où, du 17 juillet au 5 septembre, 750 enfants vont vivre des jours magnifiques. C'est l'envolée de cette jeunesse heureuse, allant au devant de la vie. Demain, vous serez des jeunes citoyens. Les jeunes citoyennes qui, dans Ivry, travailleraient à nous faire enfin une France libre, forte, heureuse.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et cette saison, l'histoire des colonies de vacances, avec Laura Downes qui a publié chez Perrin un livre sur ce sujet. Où L'exemple des maths est mis beaucoup en avant. Les maths où on chante la musique, les airs de Shostakovich et de Jeanine Perret, les plus connus qui soient. Alors là, il y a une photo de Maurice Thorez. On est juste au lendemain de la guerre, au moment du grand culte de la personnalité de Maurice Thorez. Là où il y a le crucifix ou la Vierge Marie dans les colonies catholiques. Grosso modo.
Oui, c'est vrai. Donc, la photo de Maurice Thorez dans les tentes des enfants, les tentes qui entouraient les bâtiments principaux de la grande colonie des maths, au sein d'une belle pinède, pas très loin de la mer, effectivement.
Il n'y a pas de neutralité là non plus. C'est une éducation de témoignage. D'ailleurs, la 4e République reprochait à Georges Marane de beaucoup trop faire de propagande. À quoi il répondait, bah oui, mais l'école catholique en fait aussi.
Oui. Tout à fait. En 51, il y avait une grande rappel à l'ordre faite par la 4e République qui menaçait 20 colonies communistes de fermeture s'ils n'arrêtaient pas à faire lavage de cerveau des enfants, ce que les maires de banlieues communistes appelaient une éducation de classe, une éducation appropriée à ces enfants qui vont partir de l'école et de la colonie à l'âge de 13 ans et rentrer dans les usines.
Mais les équipes s'auto-administraient, comme dans la tradition socialiste dont on parlait tout à l'heure?
Tout à fait. Après la guerre, Ivry a organisé sa colonie en tant que République enfantine. La première expérience de la République enfantine étant en été 1948. Et ça a continué pendant une bonne dizaine d'années, comme ça, avec des assemblées générales tous les dimanches, beaucoup d'activités, les petits qui prenaient la parole, une maire, des élections.
Mais il s'agissait aussi de former des militants dont plusieurs vont devenir des permanents. Les moniteurs étaient de futurs permanents communistes. Alors j'aimerais qu'on parle justement de la question de la formation de l'encadrement. Elle surgit dès le départ, elle commence à être formalisée à l'époque où la première réglementation des colonies de vacances apparaît, c'est-à-dire sous le Front populaire.
Oui, c'est-à-dire que le moment du Front populaire, c'est un moment où le nombre d'enfants envoyés double, de 200 000 à 400 000, plus de 400 000, et la question de la formation qui était peu formalisée avant, commence à être formalisée sous le ministre de Santé Henri Cellier, qui était aussi maire de la municipalité de Suresnes et qui se préoccupait beaucoup de l'hygiène des enfants, des colonies de vacances et aussi des structures pédagogiques. Et donc c'est lui qui a promu un groupe qui va se former, les CMRA.
C'est le centre d'entraînement en méthodes actives,
oui,
en matière
ça.
D'éducation.
Oui, aux méthodes actives, les CMRA.
Ça date de l'avant-guerre, mais le diplôme de moniteur, ça date de l'après-guerre, 1946.
Il y avait déjà des petits diplômes, mais tout ça devient beaucoup plus formalisé avec diplôme de moniteur et diplôme de directeur et directrice de colonie aussi.
Parce que vous n'avez pas été moniteur ni directeur de colonie, ni monitrice, ni directrice. Je sais que vous êtes une historienne du genre, je prends des précautions, mais c'est toute une technique, vous voyez.
C'est toute une technique. Et quand je me suis plongée dans les archives de l'Amicale des moniteurs et des monitrices d'Ivry-sur-Seine, alors là, je suis tombée sur les dossiers. Ils se réunissaient tous les vendredis soirs et il y avait toujours des présentations avec les titres. Pourquoi ils sont durs? Comment est-ce qu'on peut les discipliner? Qu'est-ce qu'il faut chanter en colonie de vacances? Et à quel moment faut-il réserver les chansons militantes? Donc, plein de questions extrêmement intéressantes pour la prise en main.
Moi, je me souviens, moniteur dans un patronage, d'avoir été assailli par les gamins qui lançaient des cailloux contre le bâtiment. Ça peut déraper, Laura Dolz, assez aisément.
J'imagine. Je passe en préparation un ciné-club, pas plus qu'on ne s'improvise moniteur de colonie de vacances. Dans la plupart des cas, ces emplois sont tenus par des personnes bénévoles qui prennent un grand intérêt à leur action, y consacrent leurs loisirs et n'y cherchent d'autres récompenses que d'avoir réussi.
Tous les enfants ici, s'il vous plaît. Allez, rassemblement tout le monde. Allez, venez. Vous faites un peu de silence, s'il vous plaît. Voilà le thème du jeu. La camionnette du ravitaillement va tomber en panne sur la route de Pont-Gibaud. Il faut la retrouver et la réparer.
Vas-y. Pourquoi moi? Tu sais parler, ton père est conseiller municipal.
Bon, d'accord.
Roland,
Quoi ?
On a des revendications justifiées à présenter.
Ça peut pas attendre ?
On veut pas faire un jeu de piste. J'ai consulté la base, on veut tous construire une cabane.
Désolé, mon cher, il fallait le dire à l'avance. Maintenant, tout est prêt. Allez, on y va !
Une cabane ! Une cabane ! Une cabane ! Une cabane ! Une cabane ! Une cabane ! Une cabane !
C'est le film Le Petit Bougnat de Bernard Toublanc Michel. Oui, le râlage. Vous appelez ça le râlage.
Oui.
Il y avait des institutions où on avait créé le cahier de râlage.
Oui.
Pour consigner toutes les protestations.
Oui, il s'agit d'une expérience pédagogique extrêmement intéressante, faite par Jean Husset, qui est un expert dans la matière de la pédagogie en colonie de vacances et qui a amené deux groupes d'enfants sur une plage bretonne dans une colonie. C'était vers 2002-2005, je m'en souviens plus exactement. Il a mis ensemble les enfants de l'aérospatiale, donc les enfants de cadre, avec un groupe d'enfants qui venaient de l'île Saint-Denis. Donc un groupe d'enfants très pauvres. Et l'idée, c'était de promouvoir la mixité sociale qui était en train de disparaître des colonies de vacances à l'époque et qui continue à disparaître des colonies de vacances, pour tout dire. Donc l'idée, c'était de promouvoir la mixité sociale et de le faire à travers la parole libre de l'enfant. Et le fameux cahier de râlage, c'était l'instrument qui permettait les enfants de s'exprimer, soit sur les autres enfants, soit sur l'organisation de la colonie, des jeux, la nourriture, tout. Absolument tout.
Après l'apogée des années 60-70, où les comités d'entreprise ont joué un grand rôle, on voit se modifier l'attente des familles.
Oui. Alors ça se modifie.
Sécurité, protection.
Oui, sécurité, protection, mais aussi on est dans une période de la consommation de masse qui coïncide avec la période où les vacances des parents se sont beaucoup élargies, de 2 semaines lors du Front populaire jusqu'à 5 semaines sous François Mitterrand en 81. Les parents commencent à utiliser la colonie de vacances un peu différemment, en envoyant les enfants pendant des périodes un peu plus courtes. C'est fini la période de vacances de 6 à 8 semaines. Maintenant, on envoie les enfants pendant 2 semaines, voire 3 semaines, et puis on les amène avec la famille pendant 2 semaines de vacances de plus. Cette utilisation de colonies coïncide avec l'idée chez les parents qu'on n'est plus dans la colonie où l'activité principale, c'était les jeux de piste.
Non, il faut qu'on apprenne une discipline sportive, mais de A à Z, une langue
exact.
De A à B, ou de la musique.
De la musique, les poneys, la voix, les activités beaucoup plus coûteuses. Et la population qui peuvent envoyer leurs enfants en colonie devient de plus en plus les classes moyennes.
Mais alors à quoi servent les grands bâtiments d'autrefois ? D'autant que ces bâtiments, il faut les mettre aux normes. Il y a une passion en France, et pas seulement en France, dans toute l'Europe, pour les normes.
Oui, tout à fait. Et donc, il y a certains bâtiments qui ont été remis aux normes, comme la grande colonie des maths de la ville d'Ivry. Mais de plus en plus, depuis les années 80 notamment, les municipalités commencent à vendre leurs propriétés pour pouvoir équilibrer leur budget. Ils se trouvent devant une énorme concurrence d'organismes de tourisme commerciaux. Et le prix de mètre carré des bâtiments et le prix de hectare sur la côte charentaise, par exemple, qui coûtait 3 fois rien durant l'entre-deux-guerres et juste après la guerre, bon, maintenant, ça coûte une fortune. Et donc,
mais Ivry tient bon avec les maths.
Oui.
Et Saint-Denis avec ses colonies.
Oui. Donc,
la Poste a tout vendu.
Oui.
Et puis, chaque fois qu'une municipalité change de bord, par exemple, passe du Parti communiste à droite, le risque de la vente des bâtiments de colonies existe. On a imaginé cette annonce immobilière, je sais pas qui elle peut séduire.
Le château du bonheur. Dès l'entrée, une allée ombragée accueille le visiteur. À droite et à gauche, coupées de haies, s'étalent de vastes prairies où les vaches pâturent. La grande paix de la campagne vous envahit. Soudain, la façade blanche du château du bonheur apparaît à l'orée de l'allée entre les arbres qui lui font un écran de verdure. Avec ses balcons, ses terrasses, ses toits pointus, le château a vraiment belle allure dans le clair soleil qui le nimbe de lumière. En se promenant, on découvre des sites charmants où la vie doit s'écouler calme et douce. Sous les beaux arbres du parc, ou sur les grandes pelouses inondées de soleil, de ce vaste domaine où tout est réuni pour le bien-être, le confort et la joie des enfants.
Voilà, ce que cette offre intéresserait parmi nos auditeurs peuvent nous écrire, nous leur donnerons toutes les références. Quand même, il fut un moment à l'apogée où on ne se préoccupait plus vraiment d'éducation, de conquête et de témoignage, mais où le souci, l'accent était mis sur la socialisation. C'est bien ?
Oui. C'est
grandir en partant.
Oui, progressivement, à partir des années 60, dans les colonies communistes, l'accent est de plus en plus mis sur l'individu, sa socialisation, mixité sociale et les grandes activités de groupe qui a obligé tous les enfants de s'aligner dans l'activité du groupe, cède le pas à des levées différées le matin, l'enfant qui veut rester dans son coin, lire son livre, voilà, on va le laisser lire son livre. Et donc, la colonie devient un peu plus diverse et individualisée dans ses activités.
Mais vous savez bien que le souci des parents aujourd'hui, qui exercent pourtant une libre sexualité entre eux, consiste à protéger leurs enfants d'une découverte de la vie sexuelle dont ils ne seraient pas au courant. C'est très important, ça, quand même, dans la socialisation des colonies de vacances.
C'est très important. Et j'ai même une collègue à l'école des hautes études qui, quand elle a lu mon livre, elle m'a raconté comme quoi, à l'âge de 12 ans, je crois, elle a trouvé son premier petit ami. Et qu'ils ont fait tout le retour main dans la main dans le bus où ils sont rentrés dans sa ville natale. Mais je crois que l'initiation à la sexualité et à la sociabilité entre filles et garçons fait une partie très importante de l'histoire des colonies de vacances, surtout pendant la période de l'apogée. On voit ça très bien aussi dans le film. C'était de Truffaut ?
Non, le film « La meilleure façon de marcher » de Claude Miller.
Ouais.
C'est très bien de terminer là-dessus. Parce que les activités nocturnes, par exemple la chasse au dahu, avaient d'autres aspects que la chasse au dahu.
Oui.
Merci à vous, chez Perrin, Laura Downs, votre livre sur les colonies de vacances. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Antoine Gomez, la préparation, Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco et Maïna Sikarkras. Saint-Mathieu Vidard, c'est toute l'équipe de la Marche de l'Histoire. Je vois parmi vos invités Georges Vigarello.
Ah, ça ne vous a pas échappé, évidemment. Et
donc, vous allez parler d'une équipe au travail, parce qu'il aime le collectif, Vigarello.
Absolument. Et d'ailleurs, toute cette actualité sportive nous a donné envie de nous interroger, Jean, justement, sur la pratique du sport. Alors, individuellement ou collectivement, d'ailleurs, avec plusieurs disciplines scientifiques qui réfléchissent à ce qu'est le sport aujourd'hui. Donc, on va évoquer la naissance du sport, justement, avec Georges Vigarello. Et puis, on évoquera les performances qui sont arrivées un petit peu aux limites, la question du corps augmenté et celle du dopage, avec également Joël De Renay, qui est biologiste, et puis Benjamin Pichery, qui est réalisateur et qui a fait une très très belle série sur des regards croisés de scientifiques autour du sport.
Donc présentation de ce grand projet interdisciplinaire dans un instant dans La Tête au Carré.